Le grand poète américain Oliver Wendell Holmes a dit une fois, « La diligente abeille n'a pas de temps pour la tristesse. » La diligente abeille n'a pas le temps pour la tristesse. La diligence, autrement dit, l'assiduité, est une qualité puissante qui peut nous aider à nous distinguer en tant que bons travailleurs ou même bons serviteurs de Dieu. Chacun de nous a envie d'être un bon serviteur, pas seulement d'homme, mais aussi de Dieu. La diligence exploite la puissance de la motivation et la met au travail. Dans la Bible, elle est souvent associée à des choses telles que se lever tôt, travailler rapidement avec efficacité et poursuivre les choses avec énergie et effort. La diligence est une qualité importante pour gagner sa vie et pour améliorer sa propre situation. L'un des passages bibliques se trouve dans Ecclésiaste chapitre 9. Ecclésiaste chapitre 9, c'est peut-être l'un des passages les plus connus sur la diligence qui se trouve dans le livre de l'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9, nous avons même des cantiques qui sont basés sur ces idées-là. Ecclésiaste chapitre 9, à partir du verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire, avec ta force fais-le. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Tout ce que ta main trouve à faire. De nombreuses personnes se fixent des objectifs ou peut-être diverses responsabilités qu'ils assument dans le cadre de leur travail, mais les personnes diligentes vont jusqu'au bout de leurs efforts pour accomplir la tâche. La motivation permet d'atteindre des objectifs, mais la diligence permet d'obtenir des résultats. Donc, nous avons quand même besoin de motivation. Mais en même temps, la diligence, ça joue en plus sur la maîtrise de soi, sur la concentration, sur la mise en action, aussi la mise en œuvre de notre énergie. Alors, quand vous pensez à la diligence, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Si vous entendez le mot « diligence » ou « diligent », pour moi, je pense à une nouvelle que j'ai étudiée il y a bien des années maintenant au lycée. Et l'histoire commence alors qu'une armée de fourmis se dirige vers une plantation brésilienne d'un homme nommé Leningen. Un fonctionnaire local qui connaît bien la menace et le danger des fourmis militaires qui se trouvent en Amérique du Sud lance un avertissement sévère à cet homme qui s'appelle Leningen. Il dit « Si elle ne change pas de cap, et il n'y a aucune raison qu'elle le fasse, elles atteindront votre plantation dans 2 jours au plus tard. » Et ces mots sont, si vous voulez, ces mots résonnent dans toute cette nouvelle. Au fil de l'histoire, nous apprenons que Leningen est un peu têtu, à tel point qu'il pense pouvoir empêcher l'immense armée de fourmis de détruire sa plantation. C'est comme s'il se battait contre une force de nature. Leningen, malheureusement, malgré qu'il prenait ses précautions et se bat contre les fourmis, mais les fourmis diligentes surmontent tous ses efforts et détruisent tout ce qui se trouve dans leur chemin, dans la quête de nourriture. En effectivement, ils reprennent possession de la jungle. Alors oui, quand je pense à la diligence, pour moi, personnellement, je pense aux fourmis. Et apparemment, C'est aussi le cas pour le roi Salomon. Considérons Proverbe, chapitre 6, un peu plus loin, dans le passé. Proverbe, chapitre 6, on était en Ecclésiaste. Proverbe, chapitre 6, Salomon pense et réfléchit à ces petites créatures, cet insecte qui est tellement fascinant à contempler, à regarder. Vous voyez des fourmis, des fois, ils peuvent porter 2, 3, 10 fois leur propre poids et ils accomplissent des choses vraiment incroyables pour un tout petit insecte. Et ils sont vraiment tenaces. Ils ne lâchent pas et ils poursuivent leur chemin. Vraiment avec assiduité, avec diligence. Donc, quand nous considérons la pensée ici du roi Salomon, nous avons chapitre 6 des Proverbes et à partir du verset 6. « Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devint sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. » Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Donc nous avons ce petit insecte qui devrait nous inspirer à la diligence, à notre travail, à l'importance de ne pas cesser l'activité de récolter, de préparer, de travailler, de penser en avant de choses, de préparer en avant de certaines choses, et quand même d'être dédié à la tâche. Donc, nous pouvons, de l'autre côté, même si nous ne sommes pas capables de surmonter 10 fois notre poids, des fois, nous pouvons quand même accomplir de grandes choses et nous pouvons accomplir un travail qui plaît à Dieu. Mais ce travail dépend de notre diligence. Ce résultat, le fruit de notre effort, nous demande de diligence, à la fois physique et à la fois dans le contexte spirituel. Parce que, comme nous apprenons dans le Nouveau Testament, notre lutte n'est pas simplement contre le monde physique, mais contre des armées spirituelles, contre des forces spirituelles. Nous avons des forces spirituelles qui cherchent à empêcher l'œuvre de l'Église, à arrêter notre motivation, à nous décourager, à nous faire quitter le bon chemin. Mais dans la sagesse que nous avons lue dans les Proverbes, il se trouve d'autres exemples de la diligence. La diligence et le travail acharné sont mentionnés à plusieurs reprises, notamment en comparaison avec les alternatives, l'alternative de l'autre côté, comme la paresse et l'oisivité. Donc, pauvreté et richesse, par exemple. Proverbe chapitre 10, nous avons une comparaison ou un contraste entre la pauvreté et la richesse. Et pour nous illustrer ceci, nous avons Proverbe 10, verset 4. Proverbe chapitre 10, verset 4. « Celui qui agit d'une main lâche s'approvit, mais la main des diligents enrichit. » Et je peux continuer un peu plus, verset 5, « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. » Est-ce que cela vous fait penser aux fourmis? Moi aussi. « Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Donc il y a un temps pour moissonner, il y a un moment pour travailler, il y a une opportunité qui s'ouvre devant nous et nous devons en profiter. Sinon, nous pouvons manquer la moisson. Nous pouvons ne pas récolter ce que Dieu nous a préparé. La moisson est importante. Ce principe de moissonner est important dans la compréhension aussi du plan de salut de Dieu. Donc, considérons un peu plus loin Proverbe 13. Proverbe 13, cette comparaison entre la pauvreté et la richesse. Et l'ingrédient qui doit apparaître, c'est la diligence, le travail. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire, mais l'âme des hommes diligents sera rassasiée. Donc, encore une fois, nous avons ce contraste entre cette attitude, ce comportement d'être paresseux, d'être pas dédié à la tâche, d'être un peu là, mais pas 100%, d'être un peu en train de s'endormir pendant la moisson. C'est ça l'idée, c'est de ne pas profiter pleinement, alors que tout est là pour nous, tout est là devant nous, tout est là, disponible, accessible, à la portée de la main, et nous n'en profitons pas. Dieu, combien de fois Dieu nous a aidés, Dieu nous a même essayé de nous aider et on n'était même pas capable de reconnaître qu'il y avait une bénédiction devant nous. Ça peut nous arriver de manquer la possibilité de recevoir une bénédiction parce que nous ne le cherchons pas, parce que nous ne sommes pas diligentes. On est endormi. Qu'est-ce qu'il est indiqué pour les vierges qui sont là pour le temps de la fin, de ne pas s'endormir, de ne pas lâcher, de ne pas laisser les choses passer et s'endormir sans être vigilant. Et aussi, bien sûr, c'est le côté de garder de l'huile dans la lampe. Parce que si on se souvient, toutes les 10 vierges se sont endormies. Et ceux qui avaient de l'huile dans les lampes étaient ceux qui avaient la possibilité de voir et de marcher et de suivre. Donc, encore une comparaison assez importante dans les proverbes concernant la diligence. C'est une sorte d'esclavage comparé avec la liberté. Proverbe 12, verset 24, « La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. » Ça veut dire en esclavage, en dépendance. Dieu nous donne des opportunités d'être dans l'abondance, de suivre sa bonne voie, et de permettre à Dieu de nous bénir, de fournir, de s'occuper de nos besoins, comme est expliqué dans Matthieu 6, 25 à 33. Dieu s'occupe de nos besoins et il nous donne la possibilité d'être dans l'abondance. Mais nous avons notre part aussi. Nous devons également rester diligents, rester vigilants aussi, parce qu'il faut reconnaître la tâche à faire avant de s'engager. Il y a une autre comparaison très importante avant d'aller plus loin, c'est Proverbe 21. On peut agir dans la précipitation au lieu de prendre son temps pour planifier, pour méditer, pour même prier, demander de l'aide de Dieu. On peut agir, et je trouve de plus en plus dans ce monde actuel, ça se passe tellement vite que les gens ils jouent sur leurs réflexes. Nous sommes obligés aujourd'hui parce que le débit ou le temps passe tellement vite, il y a tellement de choses à faire que des fois on agit, on ne réfléchit pas. On agit par réflexe. Mais est-ce que nos réflexes sont corrects? Est-ce qu'ils sont efficaces? Ou est-ce que si on prenait un peu de recul pour réfléchir, pour méditer avant de s'engager, est-ce que ça serait beaucoup plus efficace que simplement le réflexe? Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va tellement vite que ça joue sur nos réflexes. Donc, il faut faire attention de ne pas permettre ces choses. Considérons Proverbe chapitre 21 et le verset 5. Dieu a un plan pour nous, le plan du salut. C'est un plan qui est défini, qui a des étapes, qui a de la signification pour chaque étape. Dieu nous donne l'exemple de faire un plan et de réfléchir étape par étape pour notre propre planification. Considérons Proverbe 21, verset 5. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Donc, encore un contraste très, très important, c'est d'agir sans réfléchir, d'agir sans demander à Dieu, sans méditer, d'agir par réflexe. La belle vie, la bonne vie que Dieu voudrait partager avec nous, demande de la réflexion, demande de la méditation, demande de la diligence. Et toutes ces choses font partie de la diligence au niveau de notre travail, au niveau de notre vie spirituelle, notre développement du caractère de Dieu en nous. C'est un projet en cours. Donc, on peut se demander pourquoi la diligence? Pourquoi la diligence? Et j'espère que les proverbes ont quand même de belles réponses là-dessus. Mais avant d'aller plus loin dans ce que nous allons discuter dans ce serment, je voudrais encore poser un peu plus précisément cette question, qu'est-ce que la diligence? La diligence peut être définie comme un effort régulier, sérieux et énergétique par Merriam-Webster.com. Un travail et une application dévouée et minutieuse pour accomplir une entreprise. Donc, à chaque reprise, quand nous discutons la diligence, ça demande un effort, ça demande un travail. Ce n'est pas donné, autrement dit. On dit des fois que les bonnes choses dans la vie ne sont pas données. Elles sont des fois gratuites, mais elles ne sont peut-être pas données. Il faut travailler soit pour les préserver, soit pour les avoir. C'est quelque chose, la diligence, ça demande du temps et de la persévérance. Alors, pourquoi devrions-nous nous y intéresser? Pourquoi ne pas se détendre et adopter une approche beaucoup plus décontractée de la vie et de notre relation avec Dieu? On pourrait simplement dire, Dieu nous aime. Il nous aime tellement, pourquoi travailler? C'est Dieu, il a tout accompli, on n'a rien à travailler, il va nous aimer tellement qu'il va nous accepter comme nous sommes. Comme nous sommes. Pourquoi travailler sur le changement, sur le caractère de Dieu? Pourquoi travailler sur ces choses quand tout est donné? Si nous avons la perspective que tout est donné, alors nous n'avons pas compris le travail que Dieu veut de nous. Nous n'avons pas compris l'idée d'une moisson importante, une moisson dans laquelle nous sommes impliqués. Nous sommes censés d'être parmi les prémices. Et puis après, quel est le rôle des prémices dans le royaume de Dieu? Nous avons quand même beaucoup de travail devant nous, frères et sœurs, si nous sommes appelés aujourd'hui. Nous ne sommes pas appelés pour devenir des paresseux, des fainéants, des personnes qui attendent la fin sans rien faire, qui s'endorment, mais nous sommes appelés parce que Dieu a prévu un travail important pour chacun d'entre nous. Et nous l'observons chez les fournis. Des fois, le travail des fournis semble assez anodin, n'est-ce pas? C'est comme si les fournis ne font pas grand-chose individuellement. Mais quand nous considérons l'accomplissement d'une colonie de fournis, ils peuvent accomplir grandes choses. Et c'est ça qui est illustré par cette histoire de Leningen et sa plantation. C'est que l'armée des fournis agit comme un seul organisme. Les efforts de chacun participent pour accomplir quelque chose plus grand que chacun d'entre eux. Donc, si nous considérons ce proverbe chapitre 6 et versets 6 à 8 et les observations, les réflexions du roi Salomon, alors peut-être on peut s'imaginer que les personnes à l'époque de Salomon, les personnes auxquelles s'adressait le roi Salomon, on peut se demander est-ce que eux ils pensaient qu'il était paresseux? Peut-être que ces personnes ne se considéraient probablement pas de cette manière. Et si nous nous inspirons du travail diligent de la fourmi, nous n'aurons pas à nous inquiéter de cela. Mais il faut admettre que dans le monde actuel, avec toutes ces forces de découragement, de dépression, de distraction et les forces spirituelles derrière toutes ces choses, il est quand même possible de devenir assez paresseux. Et de dire je n'ai rien à donner, je n'ai pas d'impact. Pourquoi travailler tant si je ne réussis pas à avoir un changement? Si je ne réussis pas un changement personnel, par exemple, pourquoi continuer à travailler là-dessus? Ça demande de la diligence, ça demande une belle vision aussi de ce que nous devrons accomplir et pourquoi. Mais cela demande la diligence. Dans la Bible, nous pouvons trouver des exemples de ceux qui travaillent avec diligence et qui vont recevoir des richesses, des bénédictions, même des opportunités et peut-être même une compréhension plus profonde qui est donnée par Dieu. Donc nous voyons aussi que ce n'est pas parce que nous avons réussi que nous devons manquer de diligence. Considérons Proverbe 27, parce que des fois nous avons un certain niveau que nous avons obtenu ou que nous avons reçu, mais nous avons quand même des avertissements dans la Bible de toujours rester diligente dans ce cas-là. Ce n'est pas la diligence juste pour les pauvres, par exemple, juste pour ceux qui n'ont rien. La diligence est pour chacun d'entre nous. Donc Proverbe 27, c'est un bon rappel ici que ce que nous avons gagné, même cela n'est pas donné pour toujours. Nous pouvons le perdre. Proverbe 27 et le verset 23. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ceci veut souligner le fait qu'il faut entretenir ce que nous avons reçu. Si nous avons des troupeaux, si nous avons beaucoup de brebis, ça devient une responsabilité. Nous sommes responsables de ces choses. Si nous avons prié que Dieu nous donne quelque chose, que Dieu nous donne un bon travail, que Dieu nous donne une famille, que Dieu nous donne des enfants, alors, ce sont des bénédictions, mais ça demande aussi qu'on s'en occupe, que ça ajoute à notre responsabilité, n'est-ce pas? Des fois, on peut demander certaines choses et puis on n'est pas prêt pour faire le travail que ça demande, si vous voulez. Des fois, peut-être quelqu'un va... je sais que dans ma famille, mon père était à la retraite une fois et il voulait acheter une entreprise pour lui, pour livrer des choses, des chips et des snacks et des choses comme ça aux stations de service. Et il pensait que ça serait une bonne entreprise pour lui, mais au bout de 3 mois, il était à plat parce qu'il ne comprenait pas avant de l'acheter combien était le travail de quelqu'un qui livre tous ses produits chaque semaine à plusieurs endroits. Et au bout de 3 mois, il a dit « je dois quitter cette entreprise, je dois le vendre ». Donc, il n'avait pas compris le travail, mais il pensait que ça serait une bonne idée, parce qu'il voyait les marges, la possibilité de faire un profit, mais finalement, le travail n'était pas pour lui à ce moment dans sa vie, par exemple. Peut-être quand il avait 20 ans, 30 ans, ça aurait été différent. Mais c'est pour nous dire que si on demande certaines choses, si on s'engage à certaines choses, il faut entretenir, il faut s'engager à 100%. Et cela demande aussi la diligence. Mais en termes de notre relation avec Dieu, la diligence présente de nombreux avantages de plaire à Dieu. Si, c'est un état d'esprit de chercher à plaire à Dieu. Ça demande une diligence. Qu'est-ce que je peux faire pour plaire à Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? au-delà de ce qu'il demande ou qu'il m'ordonne, qu'est-ce que je peux faire, comme nous avons mentionné dans les cantiques, 1 Corinthiens 13. Nous devons avoir de l'amour, bien sûr, la charité, mais aussi nous pouvons mettre avec cela nos efforts, notre diligence à servir Dieu et notre prochain. Donc, pour devenir ou pour travailler notre diligence, voici quelques points. Premier point, c'est ne vous retenez pas. Autrement dit, ne restez pas de côté. Il faut être impliqué. Lorsque vous êtes assidu ou diligent dans votre travail, vous vous consacrez entièrement à une tâche dans le but de l'accomplir. Cela ne signifie pas que le multitâche, comme certaines sont capables de faire un multitâche, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais si votre travail implique d'être multitâche, alors faites-le avec diligence aussi. Ce n'est pas simplement une question de concentration mentale, mais un dévouement à la tâche. Donc, à quoi pourrait donc ressembler l'inverse, si on pense à ça? Si vous ne vous consacrez pas à 100% à votre travail, c'est peut-être parce que vous laissez les distractions prendre le pas sur la tâche que vous devez accomplir. C'est peut-être le cas. Je sais que aujourd'hui nous avons les courriels et quand nous avons un bureau, quand nous travaillons avec l'écran devant nous, maintenant il y a tout un système pour nous alerter d'un nouveau courriel, une notification importante. Et comment gérer toutes ces distractions? Moi, je ne les aime pas. Des fois, je mets certains appareils sur muet pour que je puisse me concentrer sur la tâche. Parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en tout temps. Nous vivons dans une époque de distraction. Alors, il faut s'impliquer, n'est-ce pas? Où sont nos yeux la plupart du temps? Dans la journée, est-ce que nos yeux se trouvent sur le téléphone? Je sais que nous voyageons assez souvent et nous avons récemment pris un hôtel. Et quand je suis allé à la réception, à l'hôtel, la personne qui était censée de s'occuper de la réception était là comme ça, avec son téléphone, un peu à l'écart du bureau de réception, et il faisait comme ça, comme il ne savait pas si j'attendais son avis sur quelque chose. Il était tellement concentré sur son téléphone et je peux pas vraiment dire à 100%, mais j'imagine que ça n'a eu rien à voir avec son travail. Je peux imaginer que c'était pas son travail parce que quelqu'un qui s'occupe de la réception, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que cette personne fait? Elle s'occupe de la réception. Et si elle n'est pas à l'écoute des clients, elle n'est pas en train de travailler, de faire son rôle. Donc, voilà, les distractions vont jusqu'à ce point pour infranger, pour interférer avec notre travail. Et ça peut devenir un peu habituel de consulter, chaque quelques minutes, consulter. On nous permet à chaque minute, à chaque 30 secondes, de consulter les choses. Et je sais que, prenons l'exemple de cette semaine, les nouvelles rentraient comme ça, chaque jour, beaucoup de nouvelles qui se passaient. Alors peut-être une semaine où on était un peu plus tenté à regarder les informations pour voir ce qui se passe dans le monde, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient tout en même temps. Mais ceci n'enlève pas la responsabilité de rester concentré sur notre travail, sur la tâche devant nous. Alors, on a le téléphone et malheureusement, ça a déjà causé des dégâts dans les générations actuelles, les jeunes, parce que les jeunes maintenant ont accès direct à l'Internet en tout temps. Quand nous étions jeunes, quand moi j'étais plus jeune, il fallait s'asseoir devant son ordinateur, il fallait se connecter à l'Internet, et l'Internet bougeait lentement, lentement, avec des petits, les longues attentes pour avoir quelque chose à lire ou à consulter. Maintenant, tout est accessible très très vite. Et c'est devenu une distraction, même au niveau travail, même dans le cercle de la famille. C'est devenu une distraction pour les parents, même avec les tout petits bébés. Il y a des études qui disent que certaines jeunes mamans aujourd'hui, ils passent beaucoup plus de temps à regarder leur portable, leur smartphone, que regarder les enfants, et d'avoir du contact avec les yeux des enfants et de faire des choses, des activités avec eux. Ce sont des études très, très récentes qui démontrent que ces distractions ont un vrai impact. Et élever un enfant demande de la diligence, n'est-ce pas? S'occuper d'un bébé, ça demande de la diligence, ça demande du travail, une concentration, une planification aussi. Et si on est trop distrait, hop, il y a le coucher de soleil. Ah, j'ai pas donné à manger à mon enfant. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Est-ce que les enfants souffrent à cause de ça? Donc, les études ont déjà démontré que le simple fait de tenir un smartphone, un téléphone intelligent, ou de poser ce téléphone, par exemple, sur votre bureau comme ça, ou sur votre table chez vous, à manger, ceci, en fait, change les interactions autour de vous. Même la personne qui est en face va penser que vous êtes distrait par votre téléphone, parce que vous l'avez avec vous. Parce que c'est comme une autre personne, une autre présence de quelqu'un qui est en interférence avec la possibilité de s'engager entre deux personnes. Les téléphones sont devenus jusqu'à ce point-là comme distraction. Donc, nous sommes avertis. Même si nous avons cette capacité de travailler avec toutes ces notifications, et ça demande peut-être un entraînement, une certaine formation, ou une certaine personnalité, mais il faut quand même réfléchir sur la question, est-ce que je suis à 100% dans mon travail? Considérons Proverbe, chapitre 22, on n'y est pas très loin, Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des lois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Donc la Bible enseigne qu'un excellent travail, et pas seulement le statu quo, peut nous apporter de l'honneur devant Dieu et devant tous les hommes également. Un homme habile dans son ouvrage. Et bien sûr, je pense que nous sommes les hommes assez au courant que chez les hommes, on dit qu'à peu près 80% de notre pensée pendant une journée, c'est sur notre travail, c'est sûr. Et puis notre estime de soi, notre confiance est aussi liée à notre travail pour les hommes. Et si nous ne sommes pas dédiés, si nous ne sommes pas diligentes, est-ce que nous pouvons attendre le respect et le succès, la réussite dans le travail? Peut-être on peut l'attendre, mais malheureusement, on n'obtiendra pas. Et c'est devenu assez difficile. Et des fois, on voit chez certaines entreprises, chez certains magasins même, qu'on ne voit jamais la même personne de l'autre côté du comptoir, parce que tellement il y a de changements dans ceux qui ne sont pas capables de s'engager dans leur travail. Donc, notre travail devrait nous apporter une certaine confiance, une certaine stabilité, et bien sûr la possibilité de gagner notre vie. C'est important. Dieu l'a créé comme ça. Dieu a créé les moissons. Il a créé les saisons. Il a créé les semences. Il a créé les animaux pour nous donner à manger. Et ceci demande un travail. Donc, la Bible insiste qu'un excellent travail, et pas seulement le statu quo, peut nous donner le respect, non pas seulement devant les hommes, mais aux yeux de Dieu. Considérons 2 Corinthiens 8. D'après le commentaire de MacArthur que j'ai consulté pour ce passage, notre ami Tite est connu pour son excellent travail et MacArthur a estimé que pendant à peu près un an, Tite a travaillé pour ramasser des fonds pour les membres nécessiteux de Jérusalem. Imaginez que pendant toute une année, Tite était en train de travailler pour ramasser des fonds pour les livrer aux personnes en besoin à Jérusalem. C'est quelque chose que je découvre, hein, parce que je n'avais pas pensé à la quantité d'efforts qui était nécessaire. Des fois, on pense à un sabbat ou après le sabbat ou une journée, par exemple, où on va dire, voilà, il y a le besoin. Et puis, dans l'espace de, je ne sais pas, une semaine ou deux, tout le monde répond et c'est fini. Mais d'après ce que j'ai lu dans ce commentaire-là, on estime que c'est depuis un an, pendant un an que Tite avait travaillé là-dessus. 2 Corinthiens, chapitre 8. Nous voyons dans les écrits de Paul que Paul a apprécié le travail diligent de Tite. Ça a mérité la reconnaissance. 2 Corinthiens, chapitre 8, à partir du verset 6. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc ce commentaire que je vais vous donner tout de suite n'a rien à voir vraiment avec le travail de Tite, mais si vous considérez l'implication même des membres, Paul est en train de souligner pas seulement le travail de Tite, mais l'implication à 100% par excellence, par la voie d'excellence, la parole, la connaissance, la foi, le zèle. Donc, tout le monde est impliqué. Pas seulement Tite, mais Tite a un rôle qu'il a joué aussi. Il a joué ce rôle. Verset 8. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver, par exemple, du zèle des autres, la sincérité de votre amour. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, pour vous, s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Donc, verset 10, c'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient, à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Donc on a cette astuce concernant à peu près un an que ce travail, que ce projet était en cours. Mais on insiste ici sur la diligence, sur le travail acharné de non seulement Tite, mais aussi les membres. On le dit dans le mot « zèle » aussi. Le mot « zèle » est bien traduit en français, alors qu'en anglais, ça veut dire souvent « diligence ». Donc, par exemple, du zèle des autres, au verset 8, concerne l'assiduité ou la diligence. Donc, il faut choisir de s'impliquer, il faut prioriser ces choses, l'implication. Ça m'étonne de plus en plus dans la quarantaine, comme quoi le temps passe tellement vite. Et si je ne suis pas engagé, le temps vole. Tempus fugit en latin, n'est-ce pas? Le temps peut nous abandonner très très vite. Donc, nous sommes censés d'être accrochés et engagés parce que le temps que Dieu nous donne est précieux. Chaque jour est précieux. Chaque opportunité de servir est précieuse. Donc, un autre point sur la diligence pour le développer et l'entretenir. Soyons fidèles dans les petites choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Considérons Matthieu 25. Matthieu 25, nous avons la parabole des talents, bien sûr, qui nous indique qu'avec très peu, on peut plaire à Dieu. Ou, si on n'est pas engagé, si on n'est pas diligent, zélé, dédié à la tâche, on peut quand même déplaire à nos maîtres ou même à Dieu. Donc, nous avons Matthieu 25, la parabole des talents. Verset 14, « Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. » Donc, dès le départ, nous avons l'idée de la capacité. Dieu ne va pas nous donner au-delà de notre capacité, mais ce que Dieu nous donne, il attend de nous notre implication, notre travail, notre diligence. Et voilà, dès le départ de cette parabole, nous avons l'idée de travailler avec ce que nous avons reçu. Quelque chose qui vient de notre maître, de notre Père céleste. Quelque chose qui nous est confié comme une tâche, comme la mission de l'Église, de prêcher l'Évangile dans le monde entier et de s'occuper de ce que Dieu appelle pour préparer les prémices pour la première résurrection. Donc, verset 16, « Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. » Donc, si nous considérons cette parabole dans le contexte de la diligence, est-ce que ça demande beaucoup d'efforts d'aller cacher un talent dans la terre? Est-ce que c'est ça que Dieu attend de nous? Est-ce que nous constatons déjà qu'il y a un manque de compréhension de l'opportunité, de l'importance de ce que cette personne avait reçu? Je voudrais vous encourager, frères et sœurs, même si nous n'avons reçu que petite chose, que 1 talent, par exemple, même si nous ne considérons pas talentueux dans la vie, si nous n'avons pas l'emploi que nous avons rêvé ou le niveau de vie que nous avions peut-être anticipé, ce que Dieu nous a donné est important, et ça vient de lui. Et on doit s'en occuper comme si c'était un grand trésor, comme si c'était 5 ou 10 ou 20 ou 100 talents, par exemple. Notre rôle, c'est de faire avec ce que Dieu nous a donné, pas avec ce que Dieu ne nous a pas donné. Ça, c'est sa décision à lui. Et il décide à celui qui va donner encore ou davantage, et celui qui va à qui il va donner 1 talent, par exemple. Mais je ne pense pas qu'on insiste là-dessus assez souvent, le fait que cet homme n'avait pas considéré la valeur de son talent. Et de l'autre côté, peut-être il n'était pas prêt d'aller travailler avec peu, comparé aux autres. Il était content avec peu et il ne cherchait pas plus, par exemple. Mais qu'est-ce que Dieu cherche de nous, même s'il nous donne peu? C'est notre implication totale, notre diligence en toutes choses. Dans le contexte de notre petit troupeau, ici, nous sommes un petit troupeau. L'Église est décrite comme un petit troupeau. Mais Dieu s'occupe de nous et nous sommes quand même considérés comme le pruneau de son œil, et nous sommes considérés comme précieux aux yeux de Dieu, même si nous ne sommes pas nombreux. Nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Et ce que Dieu nous accorde est précieux à ses yeux également. Et nous devons comprendre cela. Au lieu de se plaindre de ne pas en avoir plus, au lieu d'enterrer et de cacher et de ne pas mentionner, de ne pas en parler de ce que Dieu nous a accordé. Verset 19, « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. » Donc, aux yeux de son maître, même 5 talents, c'était peu de choses. « Je te confierai beaucoup. » Entre dans la voie de ton maître. Donc même les 5 talents, même celui qui a reçu le plus, a reçu peu comparé à ce que le maître prévoit de lui donner plus tard. C'est pareil pour nous. Si nous avons reçu plus, c'est peu vis-à-vis de ce que Dieu prévoit de nous donner dans l'avenir. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Donc de peu, ils reçoivent beaucoup parce qu'ils ont bien géré, ils ont bien apprécié, ils ont bien valorisé le peu qu'ils avaient reçu. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne, où tu n'as pas semé. » Encore une fois, cette référence à la moisson, ça nous fait penser directement au proverbe de Salomon, n'est-ce pas? « Moissonne, où tu n'as pas semé. » Oh, bon, il présente ses excuses, n'est-ce pas? « Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. » Comme s'il l'expliquait au minimum. Tu aurais pu faire ça. Parce que tu ne voyais même pas la valeur de l'intérêt associé avec ce talent. Pour interpréter un peu ce passage. Donc l'idée, c'est que nous devons valoriser ce que Dieu nous donne, même si ce n'est que peu à nos propres yeux. Et si nous avons consacré 100% à notre travail, c'est consacrer 100% à quelque chose que Dieu nous a donné. Nous reconnaissons que c'est Dieu qui nous a donné notre santé, notre capacité de travailler, et nous apprécions ce qu'il nous donne, et nous nous impliquons là-dedans. Donc, soyons fidèles en peu de choses. Dieu va récompenser ses serviteurs, et cette récompense sera aussi en fonction de leur travail et de ce qu'ils vont faire avec ce qu'ils ont reçu. C'est très clair dans cette parabole. Donc, tout le monde sait, tout le monde comprend qu'il faut travailler pour gagner un salaire journalier, mais il faut un excellent travail pour multiplier par 5 ou 10 le salaire d'une journée. En d'autres termes, il est possible qu'au fil du temps, une personne produise plusieurs fois plus qu'une autre personne en travaillant très dur et en gérant bien ce qu'il a reçu. Est-ce que nous allons nous dédier à la tâche de travailler avec ce que Dieu nous a confié? Dieu confie aux membres de l'Église de Dieu des tâches et des responsabilités en fonction de nos capacités. et ce qui inclut la qualité de notre travail. Donc, les responsabilités que nous pouvons avoir dans l'Église sont importantes. Ce sont des opportunités pour démontrer à Dieu notre capacité à gérer ou à faire ce qu'il nous donne à faire. Et ceci nous prépare, bien sûr, pour l'avenir. Donc, nous avons lu l'idée de la main du diligent qui domine et le paresseux qui passe aux travaux forcés, qui serait en service, en dépendance. Nous devons apprendre à faire un travail excellent et rester fidèle, même en petites choses. C'est intéressant parce que la Bible parle de cette semence qui a la capacité d'en produire beaucoup. Mais ça commence avec une toute petite chose, une semence, quelque chose qui est très très petit. Donc, pour continuer à développer la diligence, un troisième point, c'est de continuer à évaluer notre travail. Évaluons notre travail, considérant la qualité ou le manque de qualité de notre travail. Comme la plupart des qualités d'un bon serviteur de Dieu, la personne la plus apte à développer la diligence en nous, c'est nous. Et si nous considérons les paroles célèbres de Salomon de faire avec toute notre force ce que notre main trouve à faire, alors nous allons comprendre que ça demande une évaluation de temps en temps. Cela demande une réflexion. Est-ce que je fais ce que je peux faire? Est-ce que je fais mon 100% dans mon travail? Paul a mentionné dans Colossiens chapitre 3, nous avons les échos, si vous voulez, du roi Salomon, les proverbes. Mais Paul a expliqué dans Colossiens chapitre 3, non seulement la quantité ou la qualité de notre travail, mais pour qui nous faisons notre travail? Pour qui? Est-ce que notre travail est pour nous servir à nous? Ou est-ce que finalement nous voyons un peu plus loin, comme Paul a mentionné dans Colossiens chapitre 3? Si nous avons cette perspective, ça devrait toucher à notre travail. L'idée, c'est qui servons-nous avec notre travail? On peut commencer au verset 22, lire jusqu'au verset 24. Colossiens 3, 22. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Et puis le verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas, ou non pour les hommes, ou des hommes. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Intéressant. Si nous considérons la fin de toute chose, la fin de nos efforts, nous nous rendons compte que ce n'est pas juste notre chef au travail ou notre maître, si vous voulez, mais c'est Dieu que nous servons. Donc, pour faire du progrès, nous devons nous poser certaines questions de temps en temps. Est-ce que je cherche à plaire à Dieu dans mon travail? Est-ce que j'accomplis les tâches qui me sont confiées avec enthousiasme et efficacité? Est-ce que je prévois suffisamment de temps pour accomplir les tâches qui me sont confiées? Est-ce que j'attends avec impatience une nouvelle mission, ou est-ce que j'accepte des nouvelles tâches avec un peu contre-cœur, avec trépidation, avec peur, avec réticence? Est-ce que j'accepte ces missions avec deux mains? Est-ce que j'accroche là-dessus? Considérons le psaume 125. J'ai trouvé ceci très à propos. Psaume 125. Parce que vraiment, nous devons comprendre que si nous servons Dieu, si nous faisons notre part, Dieu va bénir ses efforts. Il va reconnaître ses efforts. Il va nous aider à rester solides et de ne pas être emportés par le vent. Psaume 125, cantique de degrés, « Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Des montagnes entourent Jérusalem. Ainsi, l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. » Frères et sœurs, avec toutes les attaques, toutes les distractions, toutes les forces spirituelles dans ce monde actuel, qui sont contre la voix de Dieu, qui sont contre chacun de nous, qui sont contre notre fraternisation, notre culte, notre louange à Dieu, nous devons compter sur Dieu si nous nous occupons de la tâche. Nous pouvons avoir confiance que lui, il va s'occuper de nous. Donc, posons-nous des questions sérieuses et bien réfléchies à propos de la tâche devant nous. Est-ce que nous prions? Est-ce que nous demandons à Dieu dans nos prières de nous aider à mieux comprendre nos rôles, à mieux comprendre le travail et les tâches devant nous? Cela demande une réflexion habituelle, des fois même quotidienne. Et cela demande également la volonté de s'améliorer, de changer, d'être de plus en plus mature, de poursuivre la perfection, la maturité dans cette vie chrétienne. Donc pour terminer, quel est le résultat du travail de la fourmi? En fait, ce n'est rien de plus qu'une existence quotidienne. Mais les efforts assidus de la fourmi profitent à l'ensemble de la colonie. Une colonie de fourmis fonctionne comme un organisme unique composé de milliers ou de dizaines de milliers de fourmis individuelles. Et donc, en considérant la fourmi, vous verrez, vous allez voir que ces fourmis font leur travail avec diligence. Ils ne comprennent pas vraiment un bénéfice personnel. Ils font leur travail, pas parce qu'ils tirent un profit ou un salaire, mais parce que ce qu'ils tirent en profit, c'est pour l'ensemble de la société, de leur colonie. Et une autre chose, c'est que chaque tâche accomplie par des fourmis semble des fois anodin ou peut-être sans signification, mais finalement, chaque tâche accomplie est importante et même essentielle pour l'ensemble. Donc, rappelons-nous que nous avons discuté la façon dont l'apôtre Paul a encouragé les membres de l'Église à faire leur travail de tout leur cœur, puisqu'ils étaient en fin de compte en train de servir Dieu. Nous avons lu Colossiens chapitre 3 là-dessus. Avec une bonne motivation, tout travail, toute tâche que nous faisons devint significatif et important, parce que notre travail est une occasion de servir Dieu, notre Père et son Fils, Jésus-Christ. Donc, si nous nous consacrons à notre travail, si nous restons fidèles, même dans les petites choses, et si nous continuons à nous poser la question, est-ce que je fais un progrès? Est-ce que je fais un bon travail? Alors, nous allons progresser avec la diligence. Donc, pour terminer, un dernier verset, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens, chapitre 7. Verset 29. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont une femme soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. C'est un comportement, c'est une attitude, c'est un paix que nous pouvons trouver. Celui qui n'est pas marié ne s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Donc, ce que je voudrais insister ici, frères et sœurs, c'est que c'est le temps qui est court. Le temps est court, donc faisons notre travail avec diligence.